Bien entendu, congolais, présenté par Alain Rung.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Assemblée nationale, adoption vendredi dernier du projet de règlement intérieur de cette institution. Parmi les innovations, on note entre autres la participation de l'opposition au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Quelle analyse faire de l'adoption de ce règlement, de ce projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et quelles sont les autres innovations? Nos invités dans cette émission sont Boniface Balamagué, député national de la majorité présidentielle et secrétaire général du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement et sécurité. Honorable Balamagué, bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Eux, c'est l'honorable Bélissé Sanga, député national de l'opposition et membre de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur. Il est président du parti politique Ensemble et des volontaires pour le développement de la RDC en vol, ainsi que le professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes très nombreux à nous envoyer déjà vos réactions comme d'habitude. Germain Guamachi de Kamanga, au Cesse Oriental. Ce règlement profite à tous les deux camps politiques, car pour l'adoption, on constate même l'opposition y participe. Mais en cas d'échec, la faute sera toujours attribuée à la majorité. Nous voulons sentir la loi de la majorité. Fatou Mouteb de Lubumbashi au Katanga, y a-t-il dans ce règlement une disposition qui oblige tous les députés de passer au moins une seule fois à la tribune afin d'intervenir, parce qu'à la législature passée, certains ne faisaient qu'applaudir ou dormir au cours des débats? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail bec@radiocapi.net.
Le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté lors de la plénière de vendredi dernier. Sur un total de 392 députés présents dans l'hémicycle, 311 députés ont voté pour, tandis que 18 ont voté contre et 63 se sont abstenus. Les députés ont ainsi adopté ce projet de règlement dans sa globalité, sans passer par l'examen des articles qui ont fait l'objet d'amendements de certains députés. La plénière a décidé de verser tous les amendements, plus de 700, à la commission politique, administrative et juridique qui sera mise en place après l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Un vote qui apparaît précipité aux yeux de certains, mais s'explique compte tenu des enjeux politiques de l'heure pour d'autres. Honorable Juvenal Mounoubo-Moubi, vous êtes le premier secrétaire rapporteur de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quelles en sont les innovations?
Le projet de règlement intérieur de l'Assemblée nationale a, entre autres innovations, la reconnaissance de la participation de l'opposition politique dans les bureaux définitifs de l'Assemblée, mais également dans les bureaux des commissions. Une autre innovation, c'est le droit de retour des députés, parce que le député qui a été nommé à une fonction incompatible avec l'exercice du mandat parlementaire, après la cessation de l'exercice de cette fonction, reprend de plein droit son mandat parlementaire. Entre autres innovations, il faut signaler aussi la formalité du poste d'assistant parlementaire, parce qu'avant c'était un peu comme dans l'informel, mais cette fois-ci l'assistant parlementaire c'est un personnel politique qui dépend des députés et qui est pris en charge, rémunéré par le parlement, et même ses frais de voyage et de séjour par la circonscription électorale du député, tout ça est pris en charge par l'Assemblée nationale. Autre innovation, c'est que tout député peut maintenant saisir le comité des sages, qui est en fait un comité pour les règlements des différents entre députés. Il faut aussi souligner la déchéance d'un membre du bureau qui s'est rendu coupable d'une faute grave. Le mécanisme qu'on a prévu ici, c'est la pétition signée par au moins un dixième des membres qui composent l'Assemblée nationale. Globalement, on peut dire que c'est très différent. Ces projets du règlement, nous attendons de les transmettre à la Cour suprême de justice qui se prononcera sur sa conformité à la Constitution après 15 jours selon les prescrits de l'article 112, alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo.
Propos recueillis par Samuel Kachak, honorable Boniface Balamagué. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et secrétaire général du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement. Et c'était de façon générale, honorable, comment vous avez reçu l'adoption de ce projet de règlement intérieur.
Bien, je, comme tous les autres députés de l'Assemblée nationale, j'ai voté pour ce règlement intérieur parce qu'il était attendu. En effet, vous avez remarqué que depuis la proclamation des résultats des législatives, notre Parlement est comme mise en veilleuse. Il était donc nécessaire et urgent que ce Parlement, après avoir installé, ou en tout cas mis en place le bureau provisoire, après avoir validé les pouvoirs de députés, il était nécessaire que notre institution se dote du règlement intérieur pour lui permettre de mettre en place rapidement son bureau définitif et enfin, n'est-ce pas, commencer à fonctionner normalement et recevoir le programme du gouvernement. Parce que, comme vous le savez, on ne peut comprendre la Chambre parlementaire, l'Assemblée nationale, sans penser au gouvernement. Les deux pouvoirs sont certes séparés, mais ce sont des pouvoirs qui sont fonctionnellement associés parce que l'Assemblée nationale donne au gouvernement la matière, notamment les lois pour les exécuter, et lui donne, n'est-ce pas, un programme pour pouvoir diriger. Donc, il était nécessaire que ce règlement soit voté pour qu'on installe enfin le bureau définitif, pour que le président de la République nomme un premier ministre qui présente son gouvernement et son programme devant l'Assemblée nationale, pour qu'il soit investi, pour qu'enfin la République fonctionne normalement.
Avant d'entrer dans les innovations, il y a cet auditeur qui nous écrit de Kingo Manyama, Imorani Sapro, qui dit « Qu'est-ce qui explique ce nombre élevé d'amendements ? Il faut rappeler qu'il y en avait plus de 700. Les députés nationaux de la législature passée, elles ne voyaient-ils pas ces incohérences ? Ou soit on peut dire que cette Assemblée nationale de la législature passée fonctionnait avec beaucoup d'erreurs ? Honorable Balamagué.
D'abord, je voudrais dire que le règlement intérieur de la législature passée est un règlement qui a permis à l'Assemblée nationale de la législature passée de fonctionner normalement. Ce règlement, à part les innovations qui ont été consacrées et dictées par la révision constitutionnelle, la loi électorale intervenue, en tout cas telle qu'amendée, et la loi sur les partis politiques, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la législature passée est un règlement convenable et qui a permis à cette institution de fonctionner normalement. Alors,
le deuxième qui est plus de 700 amendements, on
parle. Bien, vous savez que dans une institution où il y a 500 parlementaires, dans un texte de loi, un projet, il y a toujours à rédire. Il y avait 710 amendements, mais à mon sens, j'ai parcouru ces amendements. La plupart de ces amendements ne portent que sur la forme et pas sur le fond. Par exemple, je vais donner un exemple. La plupart de ces amendements, par exemple, lorsque on énonce un article qu'il faut faire référence à la Constitution de la République, il y en a qui disaient, par exemple, l'article finit par dire conformément à la Constitution. Ça signifie, parce qu'il s'agit bien de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais plusieurs amendements sur cet article, notamment 12-20, viennent pour demander, n'est-ce pas, qu'on dise conformément à la Constitution et les ajouts de la République démocratique du Congo. D'autres viennent dire conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi telle. Donc vous voyez que c'est la même chose. Et beaucoup d'amendements disent la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, ces amendements seront examinés conformément à la résolution que nous avons prise, n'est-ce pas, par la commission politique juridique administrative qui sera mise en place et le règlement sera étoffé. Le règlement, c'est une loi. Et toute loi est appelée à être révisitée, amendée à tout moment. L'occasion viendra quand on aura assez de temps pour que ces amendements soient débattus en plénière en toute responsabilité.
Alors, parlons des innovations. Commençons par celle qui consacre la participation de l'opposition politique au bureau même de l'Assemblée nationale. C'est l'article 22. Mais certains observateurs pensent que cela va affaiblir cette opposition.
Non, je ne le pense pas du tout. Cette innovation est dictée par la loi sur l'organisation et le fonctionnement
des partis politiques,
qui exige déjà que l'opposition participe, n'est-ce pas, à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment soit associée dans la gestion de toutes ces structures, notamment le bureau et le bureau de commission. Cette loi, lorsqu'elle était en train d'être élaborée, cette disposition était dictée par le besoin de la cohésion nationale. À l'Assemblée nationale, où nous allons, c'est vrai, il y a la majorité, il y a l'opposition, mais tous sont mus par l'intérêt général, le mieux-être du peuple congolais. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est un lieu de débat, pas un lieu de querelles ni de guerres. Parce que la démocratie veut que les gens débattent, discutent pour trouver une solution. Nous sommes de l'opposition, de la majorité, mais nous sommes les enfants du même pays et nous ne voulons qu'une seule chose, tous, ce qui nous rassemble, c'est l'intérêt de notre peuple congolais, le développement de notre pays. Et donc, pour la cohésion, effectivement, il faut nécessairement que les amis de l'opposition soient associés à la gestion.
La réalisation me signale que l'honorable Sessanga est en ligne. Avant de le prendre, une dernière question par rapport à ce premier tour de table, honorable Balamagué. Quand l'opposition participe à la gestion, cela ne va-t-il pas obstruer le contrôle parlementaire?
Non, pas du tout. Ça renforce par contre la transparence dans le contrôle.
Comment?
Lorsque tout le monde est associé, la majorité comme l'opposition, lors d'un contrôle parlementaire, il y a un poids et un contrepoids. Ça veut dire que la majorité ne va pas tirer, excusez-moi le terme, les draps de son côté. Parce que l'opposition,
malheureusement, c'est ce qui s'observe dans les faits.
Je pense que le règlement intérieur de la législature passée ne consacrait pas, n'est-ce pas, la participation de l'opposition dans les bureaux de l'Assemblée nationale et dans les commissions. C'est vrai qu'en pratique, nous avons observé que l'honorable Sessanga, qui était à l'époque était toujours de l'opposition, il était président de la commission politique et juridique administrative de l'Assemblée nationale. Il était président de cette commission-là. Mais moi, je pense que si tout le monde est associé au contrôle, la transparence est garantie et les résultats.
C'est ce qu'on verra, honorable Balamagué. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé la question en ce qui concerne l'application même de ce règlement intérieur, parce qu'on se souvient qu'à la législature passée, on n'a pas vu, par exemple, des députés sanctionnés. Je prends un exemple, l'article 119 relative aux absences, qui dit, je cite, le député qui s'absente de façon non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance d'une session perd son mandat. À la législature passée, par exemple, on n'a pas vu des députés sanctionnés. Qu'est-ce qui garantit le respect du règlement intérieur?
Je sais qu'il y a eu des sanctions. Ce n'est pas seulement la perte du mandat qui est là. Ça, c'est la sanction ultime. Mais parmi, entre autres sanctions, il y a la privation d'un tiers, n'est-ce pas, ou en tout cas d'une partie des émoluments des députés. À l'institution où j'ai siégé, au Sénat, j'ai observé des sanctions en ce qui concerne les sénateurs qui ont brillé par leur absence. Les sénateurs qui ne se présentaient pas en commission, par exemple, se voyaient leurs émoluments en rapport avec la participation de ces sénateurs et députés en commission, être retenus par l'Assemblée nationale et le Sénat. Des sanctions ont existé. De fortes sanctions, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Mais notre règlement le prévoit et nous espérons qu'effectivement, chaque député qui vient à l'Assemblée nationale, qui a été élu par son peuple, doit être responsable. Il doit venir chaque jour lorsqu'il y a plénière, il doit se présenter chaque jour lorsqu'il y a des travaux en commission, et le fait de ne pas se présenter constitue une faute qui est punissable, se prévu par le règlement intérieur. Alors, il appartient, n'est-ce pas, aux autorités qui gèrent, n'est-ce pas, ou qui dirigent l'Assemblée nationale, de mettre en pratique ce règlement intérieur qui, de mon point de vue, convient pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser le fonctionnement de notre institution jusqu'à la fin de la législature.
Merci, honorable Boniface Balamagué. Honorable Delip Etanga, est-ce que vous êtes en ligne, vous me suivez?
Oui, je vous suis.
Merci, honorable, de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et membre de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur et président du parti politique Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC en vol. Honorable Sissanga, au sujet de la participation de l'opposition au bureau de l'Assemblée, je posais la question, la même question à l'honorable Balamagué tout à l'heure. Plusieurs observateurs pensent que cela va affaiblir l'opposition. Quelle est votre réaction?
Non, je pense d'abord que la plupart des observateurs qui font ces remarques n'analysent pas finement la situation. L'opposition, en participant à la direction des organes délibérants, l'Assemblée nationale, le Sénat, demain les assemblées provinciales, va, parce qu'elle est déjà membre, si vous voulez, de ces institutions, et en participant à la gestion de ces institutions, l'opposition ne renonce pas à sa mission qui est celle de porter la critique contre la politique du gouvernement, de pouvoir préparer l'alternance et de rendre le système démocratique ainsi fluide à travers le temps. Donc, je ne vois pas en quoi ça gêne. Vous avez à l'Assemblée nationale française, vous avez parmi les vice-présidents, il y a toujours quelques vice-présidences qui sont réservées à l'opposition. Vous allez dans d'autres assemblées de par le monde, ça n'a jamais affaibli ni l'opposition, ni empêché à ce que l'alternance se fasse. Je crois aussi que la plupart des gens qui font cette critique, ils confondent l'époque. Nous ne sommes pas à l'époque du parti unique où l'opposition n'avait d'existence qu'en dehors des institutions. Nous sommes dans un système multipartite. Les députés de l'opposition, comme les députés de la majorité, sont tous des élus représentant le peuple congolais et ils exercent leur mission au regard de leur perception de l'intérêt général à l'intérieur des institutions et à cet égard-là, ils ont le droit de pouvoir participer à la gestion des institutions délibératives. Par contre, ce qui pourrait, d'un certain point de vue, analyser comme un affaiblissement de l'opposition, c'est lorsque notamment l'étendue de la majorité parlementaire pourrait être assez large, au point que l'existence de l'opposition au sein de cet organe délibérant serait réduite à la part congrue. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Ça concerne le gouvernement, ça concerne le choix politique, et dont on connaîtra les résolutions lorsque l'informateur aura fini sa mission. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Le fait que l'opposition participe à la gestion des organes délibérants rentre dans une démocratie apaisée, dans l'ordre normal des choses. Mais le fait que l'opposition participe à la gestion de l'exécutif, cette opposition-là cesse d'être opposition. C'est ainsi d'ailleurs que nous l'avons défini dans la loi sur le statut de l'opposition, sur recommandation de la Constitution, parce que c'est l'article 6 ou 8, je crois, de la Constitution qui ont prévu le principe d'avoir une opposition organisée dans notre pays.
Honorable, était-ce une faiblesse pour la législature passée de ne pas avoir tenu compte de cet aspect dans ton règlement intérieur?
Non, vous savez, je suis l'auteur de la loi sur le statut de l'opposition, c'est moi qui ai fait la proposition. La proposition a été faite, si vous voulez, après que les bureaux de l'Assemblée aient été mis en place. Et donc, par conséquent, politiquement, nous avions estimé à l'unanimité, dans un consensus très large entre la majorité et l'opposition de l'époque, qu'il n'était pas nécessaire de pouvoir bouleverser l'ordre établi, c'est-à-dire refaire les bureaux des assemblées provinciales, de l'Assemblée nationale, parce que la loi était postérieure. Mais il a été arrêté aussi dans cette loi que lors de la prochaine législature, dans celle-ci notamment, nous allons procéder à une harmonisation des règlements intérieurs pour aménager la place de l'opposition dans le bureau. Et je trouve que c'est une première application de la loi sur le statut de l'opposition et c'est une très bonne chose.
Honorable Sessanga, l'article 22 du projet de règlement intérieur, il y a un alinéa qui dit, je cite, au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau du provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique dûment signée par chacun d'eux. Il y a d'autres observateurs qui pensent, honorable, que cette disposition obstruerait un peu la marge de manœuvre de certains députés qui voudraient par exemple se positionner comme centriste et que cette bipolarisation de la vie politique ne serait pas normale.
Non, oui, je comprends tout à fait. La gestion de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, n'empêche pas qu'un député soit non inscrit. N'empêche pas qu'un député puisse se positionner comme centriste, comme on l'a dit. Mais simplement, au regard de notre constitution qui reconnaît l'opposition dans le pays, au regard de la loi portant statut de l'opposition qui a été arrêtée adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, il a été convenu que la loi aménage, les règlements intérieurs aménagent une place pour l'opposition, mais il n'a pas été reconnu, si vous voulez, pour les autres cas que vous souhaitez, c'est-à-dire par exemple les centristes, les indépendants, les non-inscrits, non-affiliés, ces choses-là. La loi, par rapport au rythme des alternances qu'il doit pouvoir dans le pays, reconnaît d'un côté la majorité qui gouverne et de l'autre côté l'opposition. Parce que si on veut aller dans le détail, on ne s'en sortira jamais parce qu'il faudra que tout de même un camp qui gouverne parce qu'il a la majorité au niveau de la Chambre et il faut un camp qui incarne la politique différente de celle de ceux qui gouvernent. Ceux qui ne sont pas, ceux qui sont centristes, soit, il me semble, ils soutiennent la politique du gouvernement ou soit ils ne la soutiennent pas. Mais on ne peut pas être globalement centriste et végéter entre les deux continuellement. Auquel cas, on peut être soit des forces marginales au sein de l'Assemblée nationale et qui, de ce point de vue, n'ont pas été prises en compte dans le choix des membres du bureau. Je relève que l'Assemblée nationale, la fois dernière, il y avait des indépendants, il y avait des non-inscrits, il y avait des gens de l'opposition, mais lorsqu'on a mis en place le bureau, il s'est avéré que tous les postes au niveau du bureau ont été conquis par la majorité. Au Sénat, nous avons eu un cas inverse parce que le président du Sénat a été était issu de l'opposition. Donc, il est largement démontré que pour pouvoir gouverner une institution comme celle-là, les critères du nombre comptent. Mais pour que ce critère ne soit pas absolu, qu'on puisse prendre en compte la diversité des courants politiques, il a été convenu que le courant que nous prenons en compte, c'est le courant de l'opposition, et non pas courant indépendant, courant de centriste et tout ça, parce que ça va compliquer.
Honorable Sessanga, l'opposition va-t-elle finalement se mettre d'accord autour des personnes à présenter au poste du bureau de l'Assemblée nationale? Quand on sait comment ça se passe, généralement, lorsqu'il faut accéder à des postes, ce sera la bagarre et ça risque de prendre du temps, d'après certains analystes.
Non, le règlement intérieur tel que nous l'avons adopté est tout à fait clair de ce point de vue. Il serait en effet souhaitable que l'opposition se mette d'accord sur les candidats que nous allons présenter. Et donc, si l'opposition ne se met pas d'accord, il y aura une pluralité de candidats. C'est ainsi la démocratie, parce qu'il y aura tout de même un vote. Il faut savoir que les responsabilités qui sont données à l'opposition ne sont pas affectées à tel ou tel parti politique pour que ce parti politique puisse en jouir comme un bien privé. Ce sont des fonctions qui sont attribuées à l'opposition dans sa globalité. Il faut donc de la discipline, de la cohérence au sein de cette opposition pour pouvoir désigner les responsables aux postes qui nous reviennent. Mais si l'opposition fait comme elle a toujours fait depuis des années, c'est-à-dire n'arrive pas à se mettre d'accord, le règlement intérieur est clair. Dans ce temps-là, toutes les candidatures seront naturellement reçues venant de familles politiques ou de partis politiques de l'opposition, et c'est la plénière dans sa souveraineté qui choisira et qui va trancher. Politiquement, vous comprenez l'indélicatesse d'une telle démarche, parce qu'elle revient à dire que c'est la majorité qui fera l'arbitrage. Donc, l'opposition n'a pas trois choix, elle a deux choix. Soit elle choisit elle-même et elle est responsable pour transcender ses clivages, soit elle n'est pas suffisamment responsable et elle est divisée, auquel cas c'est la majorité en plénière qui va trancher.
Merci, honorable Boniface Balamagué. Je vous donne la parole tout à l'heure, mais la réalisation me signale que nous avons quelques difficultés à joindre le professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. La réalisation tente de faire un effort, si on pourrait l'avoir d'ici la fin de l'émission. Honorable Balamagué, vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient de Colégio Katanga pour vous.
Professeur Ignace Ndala, depuis Colégio Katanga, je salue le courage et la volonté de travailler de notre Assemblée. Cependant, il transparaît une certaine précipitation dans l'adoption du règlement d'ordre intérieur, comme si l'élection du bureau définitif valait plus que tout. Avec le même règlement, on ne peut que s'attendre à ce que l'Assemblée copie conforme à la précédente. Surtout que ce sont de nouveaux venus qui la constituent, avec l'opposition qui fait de faux. Que dit-on du ressort des députés une fois remplacés par leurs suppléants? Cependant, je constate que adopter une loi est une chose, l'observer en est une autre. La précipitation dans l'élaboration des lois est un trou que l'on creuse pour y tomber soi-même.
Réaction honorable Balamagué.
Bien, je voudrais dire à notre ami Oboudoukil que son analyse n'est pas tout à fait correcte. Le règlement
intérieur. Il y a quand même eu une précipitation.
Il n'y a pas eu de précipitation, je vais vous le dire. D'abord, il s'agit du règlement intérieur. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'un règlement intérieur. C'est tout simplement un ensemble de règles qui précisent l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Comment elle procède au vote de loi, comment elle organise le contrôle, quels sont les droits et les devoirs des députés, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'ensemble de ce droit. Or, ce droit-là, il existait, on n'a pas inventé la roue. Je vous ai précisé qu'en 2010, la législature passée, il y a eu un règlement intérieur. Dans d'autres nations, comme la France, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce règlement, il existe. Il est tout simplement amendé lorsque c'est nécessaire au début de chaque législature. Mais ce que nous, la Constitution prévoit, qu'à chaque législature corresponde à un nouveau règlement intérieur. Mais en réalité, les règles qui fondent le fonctionnement et l'organisation d'une assemblée, que ce soit en France, que ce soit ici, que ce soit en Belgique, ces règles sont classiques, elles sont les mêmes. Alors, on n'a pas inventé la roue, nous avions un instrument qui était le règlement intérieur existant. Cependant, il y a eu des amendements qui étaient dictés par la révision constitutionnelle dont je vous ai parlé, par la révision de la loi électorale dont je vous ai parlé, par la loi sur le parti politique. Ces amendements s'imposaient, elles sont dictées. Et ce sont des amendements que notre commission, dans son travail, a jugé nécessaire de présenter à la commission, en demandant à la plénière de l'Assemblée nationale, en disant, voilà, pour nous permettre d'avoir un outil de travail, prenons ces amendements, les autres amendements, les 710, nous allons les observer, nous allons les débattre lorsque nous serons en train de travailler plus sereinement. Parce que comme je vous ai dit au départ, on ne peut comprendre l'Assemblée nationale en dehors du gouvernement. Par le temps qui court, l'impression générale que tout le monde a, c'est que la République s'est arrêtée à un moment donné. Il n'y a qu'une seule institution qui fonctionne, la présidence de la République. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. Mais tant qu'on n'aura pas installé, n'est-ce pas, le bureau définitif de l'Assemblée nationale, on n'aura pas de gouvernement investi. Or, avant d'installer le gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, il faut nécessairement avoir adopté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, si on se mettait à observer, à débattre des 7 ans, 10 amendements, alors que le règlement existait déjà, n'est-ce pas? Les amendements, je vous ai dit même, pour la plupart, sont des amendements de forme. On passerait 2 mois et demi entre deux d'élaborer un règlement intérieur alors qu'on n'invente pas la roue. Et vous savez comment les débats à l'Assemblée nationale s'enlisent et prennent du temps. Allions-nous être jugés responsables par l'opinion de passer 2 mois jusqu'à mai, jusqu'en juin, sans avoir un gouvernement qui se mette au travail? Parce que notre peuple nous attend. Et celui qui doit mettre en pratique le programme du gouvernement, c'est ce même gouvernement qui est attendu. Moi, je pense que il fallait simplement être pratique, pragmatique, réaliste. Et réaliste, le règlement qui est là, il convient. Il convient et il permet de travailler.
Honorable Sestanga, vous intervenez également après cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema pour vous.
Augustin Mwango de Kalima dans la province du Maniema, le fait que l'opposition participe au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est une innovation légitime, mais il y a lieu de penser que cela est une manière pour la majorité présidentielle de chercher à apaiser l'actuel climat politique malsain dû au manque de crédibilité des résultats des élections du 28 novembre dernier. L'un des mots qui ronge notre pays, c'est détailler les textes sur mesure.
Réaction honorable, je sais qu'il y a des bribes de réponses que vous aviez déjà données, mais l'émission est également
pénible. Je pense que l'auditeur a des appréhensions qui ne sont pas fondées. Le texte sur le statut de l'opposition, je l'ai proposé en 2007, il a été adopté à cette époque-là, et la mise en œuvre de ce texte n'a rien à voir avec le contexte actuel. C'est une coïncidence hasardeuse, donc on n'est pas, si on voulait, en train de faire un texte nouveau pour répondre à un problème actuel. La loi sur le statut de l'opposition a été adoptée depuis 2007, promulguée en 2008, et elle a prévu cela, et l'Assemblée a cru nécessaire et obligé de pouvoir adapter son règlement intérieur par rapport à cette loi. Donc, ça n'a rien à voir avec, avec la situation actuelle. Il n'y a pas de texte qui a été taillé sur mesure pour que ce soit en la matière.
Honorable, j'ai devant moi le projet de règlement intérieur à la section consacrée, section première du mandat du député. Je prends l'alinéa qui dit « Toutefois, lorsqu'un député national est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. » C'était également pour adapter à la révision constitutionnelle, mais il y a des observateurs qui pensent que c'est quand même malhonnête de la part des élus du peuple.
Non, je veux dire qu'en la matière, il n'y a pas de règle absolue. Il y a bien des systèmes démocratiques beaucoup plus anciens que les nôtres où les élus, quand ils ont été désignés à des fonctions incompatibles, suspendent leur mandat et le reprennent. Il y a même des pays, vous prenez l'Angleterre par exemple, qui est un régime parlementaire pur. En Angleterre, pour être membre du gouvernement, il faut être député, et celui qui est devenu membre du gouvernement ne cesse pas d'être député. Donc, nous sommes plutôt dans un système qui est mystique du raisin, parce qu'en fait, celui qui est nommé à une fonction incompatible cesse pendant la durée de cette nouvelle fonction d'être député, il est remplacé par son suppléant, mais aussitôt que cesse cette incompatibilité, il reprend sa place. Il faut dire aussi que dans la sociologie électorale chez nous, lorsque l'on a voté pour quelqu'un, on n'a jamais voté pour le suppléant. On vote généralement pour le candidat. Et il y a beaucoup de cas où les gens qui ont voté, les électeurs, ne connaissent même pas les suppléants. Ils se surprennent d'entendre que tel monsieur ou telle dame a été suppléant de tel autre. Et il nous a paru au cours de cette première législature que c'était infiniment injuste de pouvoir dire à quelqu'un qui a été député et une incompatibilité qui n'est plus précisée et que le suppléant pour qui en réalité personne n'a jamais voté puisse user, abuser de son mandat jusqu'à la fin. Donc on a régné les choses à l'état et on n'a pas voulu appliquer cette règle à l'ancienne législature, on l'applique à compter de la nouvelle législature. Ce qui fait que tout celui qui s'était aligné comme suppléant de tel ou tel autre candidat, il a fait en âme et conscience et il sait que quand il y a eu une incompatibilité, le temps de l'incompatibilité, il siège, mais aussitôt que l'incompatibilité cesse, il perd son siège parce que le titulaire recouvre son mandat comme c'est dit dans la Constitution.
Honorable Balamagué, je voulais d'abord préciser aux auditeurs qui nous suivent que l'incompte, cette disposition du règlement intérieur qu'on a conformé à la révision constitutionnelle de 2011 voudrait par exemple dire qu'un député qui est nommé ministre quitte l'Assemblée et devient ministre, et dès qu'il perd, il n'est plus ministre, il peut retourner à l'Assemblée. L'honorable Sestanga fait allusion à l'Angleterre par exemple qui applique ce système, on pourrait même également parler de la France, mais a-t-on la même culture politique et que devient le suppléant à ce moment-là? Un laissé pour compte, n'est-ce pas?
Bien, le suppléant, le terme le dit, il fait tout simplement la suppléance. Il intervient à l'Assemblée nationale lorsque le député élu est frappé d'une certaine incompatibilité. Lorsque, par l'effet d'une nouvelle nomination en fonction exécutive, il n'est pas en mesure de siéger à l'Assemblée nationale, le suppléant vient le remplacer et il siège. Dès lors que l'incompatibilité cesse d'exister dans le chef du député élu, il rentre à l'Assemblée nationale et le suppléant, n'est-ce pas, il attend. Il attend. C'est ça.
Vous avez vraiment tout fait pour vous protéger. Hein?
Ce n'est pas une protection de député, en fait. Il faut le comprendre. L'honorable Sestanga l'a si bien expliqué. En réalité, sociologiquement et politiquement, lorsque le peuple élu, ici chez nous au Congo et même ailleurs, ils élisent un individu qui a deux suppléants. La plupart des cas, il l'a dit, il y a des suppléants qui ne sont pas connus de la population qui a eu le député. Ce n'est qu'une logique en fait. Et nous ne sommes pas le premier pays à le faire. Nous sommes peut-être parmi les tout derniers à adopter ce système-là. Moi je pense que ça n'offusque pas, ça n'offusque en rien, parce que lorsque vous battez campagne, c'est vous qui êtes à l'avant-plan et c'est vous qui expliquez à la population votre projet, n'est-ce pas, de travail au sein de l'Assemblée nationale.
Merci, honorable Boniface Balamagué. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et secrétaire général du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement ECT. Je rappelle en même temps que la réalisation n'a toujours pas pu joindre le professeur Moïla Kiyembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Honorable Sestanga, vous êtes député national de l'opposition et membre de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur, président du parti politique Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC en vol. Il y a une réaction que j'ai lue en début d'émission, je la reprends, honorable, l'émission est pédagogique, nous l'avons dit. Patou Moutèb de Lumbasso Katanga, y a-t-il dans ce règlement une disposition qui oblige tous les députés de passer au moins une seule fois à la tribune afin d'intervenir parce qu'à la législature passée, certains ne faisaient qu'applaudir ou dormir au cours des débats?
Non, il n'y a pas cette disposition, malheureusement ou heureusement. Le mandat dans notre pays, il est représentatif, il n'est pas impératif. On ne peut pas obliger un député à ce qu'il puisse prendre parole. La parole est libre. Deuxième élément, c'est aux électeurs de choisir les bons députés qui peuvent, en allant à l'Assemblée, les défendre. Et moi, je respecte tous nos concitoyens et j'espère que quand ils font le choix, ils regardent tous ces paramètres-là et ils choisissent des gens qui peuvent, à l'Assemblée, prendre parole sur des sujets qui intéressent la nation et les défendre. Lorsqu'ils ont fait maintenant le choix et que les personnes qui ont été élues ne sont pas à même de pouvoir assurer cette charge-là, ce n'est pas au règlement intérieur de compenser la défaillance des électeurs. Et les électeurs doivent y penser avant. J'espère que l'auditeur qui le dit a dû voter pour quelqu'un dont il est sûr que cette personne va correctement le représenter et prendra parole au sein de l'hémicycle.
Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Honorable Balamagué, vous demandez la parole.
Je voulais dire que le travail du parlementaire n'est pas seulement de prendre la parole au micro en plénière. Hein. Le travail aussi s'effectue plus d'ailleurs en commission, dans les commissions. Et les commissions ne sont pas radio-télévisées. Donc si un électeur n'a pas vu son élu prendre la parole en plénière, c'est peut-être qu'il peut le regretter un peu, mais aussi il se peut que ce même député prend part activement aux travaux de la commission. C'est là que se prend le travail, c'est là que se marche le travail parlementaire.
Honorable Denis Sanga, il y a un autre auditeur, Matumaini Franklin de Bukavu Sud-Kivu, qui dit « Bien que les honorables députés aient été animés par la volonté de chercher l'équilibre au sein du bureau, à mon avis, ils viennent ainsi de ramifier les problèmes de la CENI au bureau de l'Assemblée, où la configuration opposition majorité a joué négativement sur le bon fonctionnement de la CENI. Avec cette configuration, le bureau de l'Assemblée nationale risque ainsi d'être exposé aux problèmes de fonctionnement suite à des conflits d'intérêts qui se répercutent sur l'ensemble de cette institution honorable.
Non, je crois qu'il faut apaiser ce type de crainte. Vous savez, lors de la législature passée, nous n'étions pas au bureau, mais nous étions à la conférence des présidents. Moi-même, j'ai dirigé la commission PAJ et cela n'a jamais amené sur des questions politiques et techniques à des conflits majeurs. Il faut que notre population comprenne aussi qu'au-delà de nos appartenances partisanes, nous avons un même pays, une même nation à servir et parfois, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et qu'à tout moment, la classe politique n'est pas là que pour raviver les divisions. On gère les intérêts des députés qui sont de l'opposition de la majorité de la même manière. On gère les lois qui viennent de la même manière et tout ça. Le reste, ce sont des préférences politiques qui peuvent s'exprimer dans telle ou telle direction. Donc il ne faut pas avoir peur que cela va bloquer ou amener un conflit. Au contraire, cela amène par la participation active de tous les courants politiques à la gestion de l'institution, à un bon équilibre et à des avancées majeures.
Honorable, il y a l'article 119 du projet de règlement intérieur qui dit que le député qui s'absente de façon non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance une session perd son mandat. Mais on a par exemple vu le mandat, la législature passée, il n'y avait pas de député à sanctionner à cet effet.
Oui, il y a pas eu de députés sanctionnés à quelques niveaux que ce soit, on peut le regretter. Mais bon, la sanction, il ne faut pas toujours la voir dans son expression la plus sévère. Et que d'autres sanctions peuvent être prononcées ou prémontrées à tel ou tel élu par rapport à telle ou telle situation. Et que forcément, je ne pense pas que la sanction la plus adaptée à toutes les situations soit de pouvoir faire perdre à un élu son mandat. Il faut savoir que c'est une décision qui est grave de conséquences. Il s'agit de quelqu'un qui a été élu par les électeurs de sa circonscription et lorsque l'Assemblée veut lui faire perdre le mandat, cela doit pouvoir être réellement justifié et avant d'en arriver là, il y a d'autres échelles de sanctions qui peuvent être de rappel à l'ordre pour que les choses reviennent à la normale. Je ne connais pas de cas d'exclusion qui a été prononcé sur pied de cet article-là. De la même manière, d'ailleurs, c'est quand on fait du droit comparé, c'est très rare que dans les assemblées, on puisse exclure les gens sur base de ces absences répétées. On m'a dit les gens se sont absentés sans justification, mais en réalité, ce sont les services de l'Assemblée qui n'ont pas fonctionné correctement pour pouvoir reporter à temps l'information concernant les activités des uns des autres.
Merci, honorable Balamagué. En guise de conclusion, cette émission est vraiment pédagogique. Qu'est-ce que la population qui entend de vos pubs peut retenir de ce projet de règlement intérieur?
Bien, je voudrais dire d'abord que l'intérêt que portent nos auditeurs au travail parlementaire et au fonctionnement de l'Assemblée nationale témoigne de la maturité de ce peuple. Et nous, les politiques, les parlementaires, nous devons être, n'est-ce pas, nous sommes interpellés. je voudrais dire que le règlement intérieur qui a été adopté, il a été adopté et il convient pour permettre le fonctionnement de l'organisation de notre Assemblée nationale, afin de permettre aux députés de voter les lois, de voter le budget, de mettre en place le nouveau gouvernement, enfin de libérer le fonctionnement des institutions de la République.
Honorable Sessanga, pour vous, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir en guise de conclusion?
Que ce nouveau règlement marque des progrès par rapport au précédent, dans les droits et les devoirs des députés, mais aussi dans la gestion des différents courants politiques au sein de l'Assemblée nationale. Vous savez, la démocratie est une construction qui va prendre du temps, et à chaque étape, nous devons nous poser la question si nous avons marqué des progrès, si nous avons avancé, et je pense que ce règlement s'inscrit dans la voie de l'avancement et du progrès.
Merci, honorable. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Capi. À demain.